when she took her stand, she said,
Marley, Marley, it's one, 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 it's one hell of a man.
Gotta get it off my chest to put my mind at ease. Since when you heard a DJ make cuts like these?
Yeah. no man a still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this sing ting. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana around the corner, them juggling. One madman get team foot straight out of the garbage bin. Aye. The white sun, concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community, get washed out by a bloodstorm. Every weekend, same routine, what you function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. You got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town. There's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute.
Il est 15h.
Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Thomas Michard, en 2010, vous avez 27 ans. Comment êtes-vous arrivé à visiter un appartement au 26 rue des Montibœuf?
Alors, je suis venu à visiter cet appart assez curieusement. Je ne cherchais pas forcément dans ce coin-là. Je vois cette annonce apparaître. Je vois qu'il est dans les hauteurs et qu'il est lumineux et que les charges sont vraiment très, très faibles.
Ça fait combien de mètres carrés?
Ça faisait pile 37 mètres carrés, je crois. Et j'arrive dans un appartement qui est, contrairement aux autres, qui est vide, absolument vide. Les murs sont tout blancs, c'est assez lumineux. C'était au prix du marché, c'était pas spécialement une bonne affaire, c'était pas spécialement bon marché. Voilà, à Paris, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Alors quand j'arrive, j'ai clairement l'impression que j'ai affaire à un marchand de biens. Je me doute pas de son honnêteté. Il y avait un magnifique poêle très ancien qui était cassé, il manquait des pièces. On m'explique qu'on aurait dû faire la salle de bain là, mais finalement on l'a fait ailleurs. La cuisine est incomplète. Enfin, petit à petit, s'ajoutent des petits mystères au fur et à mesure de la visite. Au sol, le parquet est très très jaune. Enfin, il y avait des traces de vie sur ce parquet. Il y avait des taches. Il y avait des. Voilà. On avait mis juste un vernis au-dessus, en fait. On n'avait pas poncé. On avait mis un vernis pour comme si on voulait que les taches ressortent. Enfin, c'était. Ça ressemblait à une tache noire avec le parquet qui aurait été même un peu endommagé peut-être par un micro-incendie. De mémoire, on m'a dit, on ne sait pas trop, il faisait des formules dans sa chambre, il était peut-être chimiste, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas. Moi, je m'étais dit qu'il y avait eu un début d'incendie, qu'il avait fait tomber une bougie, qu'il avait fait... Ouais, je m'étais inventé un truc comme ça et qu'il avait réussi avec un verre d'eau à éteindre, mais le temps d'aller à la cuisine et de revenir, voilà, je m'étais inventé ça. Alors après l'achat, il y a eu une succession de surprises. La cuisine, bon, ça a été vraiment des mois de... Pourtant, pour un si petit espace, enfin, c'était grotesque de rencontrer autant de difficultés, mais ça a été très dur à faire. Ensuite, la salle de bain s'est mise à fuir. Après, la salle de bain, ça a été la cuisine qui s'est mise à fuir, parce qu'il y a une jonction entre les deux. Il y a eu plein de petites surprises comme ça qui donnaient l'impression qu'on était dans un espèce de bateau fantôme avec plein de... Enfin, on ne pouvait pas croire que ça soit si compliqué de faire des choses simples dans un petit appart. Ce marchand de biens, de toute évidence, il n'a pas vécu dans cet appart. Il n'a pas pu utiliser la salle de bain parce qu'elle n'était pas fonctionnelle. Et puis, voilà, petit à petit, ce qui est curieux, c'est tous ces signes de mystère qui s'additionnaient, qui s'amoncelaient. Là, il y avait quand même quelque chose qui se créait autour de l'ancien propriétaire. Je me disais, ah, mais quel était ce personnage qui a vécu avant? Et ce qui était quand même assez curieux, c'est que ses voisines qui m'ont parlé de ce propriétaire, ce prédécesseur, l'ont pas vu en fait, l'ont pas tellement vu. Il a vécu là, il avait une aide-soignante, mais en fait, les voisins et les voisines ne l'ont pas tellement vu. Alors, il y a une voisine qui un jour commence à m'en parler avec entrain. Elle avait envie de m'apprendre des choses. Les rumeurs disaient que, en fait, les voisins et les voisines ne le voyaient jamais, mais croisaient toujours cette aide-soignante. C'est elle qui aurait hérité de l'appartement de façon un petit peu bizarre, parce que au niveau notarial, je ne sais pas si c'est très très légal. Moi, de ce que je comprends, c'est que des gens se sont empressés de le vendre. Enfin, il y a eu un moment donné, il y a eu une urgence. Ils ont vu cet intermédiaire qui a fait des travaux dans l'appartement et qui a fait des travaux un peu rapidement. Enfin, voilà, un marchand de biens. En fait, les problèmes successifs qui se sont enchaînés dans l'appartement confirmaient le fait qu'il y a eu une vente un peu bizarre, qu'il y avait eu quelque chose comme d'un peu louche autour de cet appartement et que moi, j'arrivais juste après. Ouais. Je sentais qu'il y avait... elle voulait me dire que ça avait été assez tragique, que finalement, toutes ces affaires avaient été retrouvées sur le trottoir et sur le palier, qu'ils avaient tout vidé à la va-vite et qu'ils avaient laissé quelque part sa vie par terre à la vue de tous. Quoi. On a vu toutes ses affaires par terre, toute sa vie étalée, des photos, des écrits, des bouquins, des archives. Voilà, c'était sur le trottoir, en bas de l'immeuble. C'était obscène, un petit peu, il y avait quelque chose d'obscène. Et c'est là que j'ai appris son nom et je me suis dit, tiens, bon, il a existé, il a un nom, voilà. Et en fait, j'en sais pas plus. C'est-à-dire qu'il y a eu ça a fait gonfler le mystère de savoir qui était là, qui a vécu là, qu'est-ce qu'il faisait. Mais j'en ai pas appris davantage. Quand vous m'avez raconté l'histoire, j'ai fait le lien entre ces taches sur le parquet et le fait qu'il soit graphologue. Je me suis dit, tiens, ne serait-ce pas alors finalement de simples taches d'encre? J'ai tout de suite pensé à ça. Enfin, c'est cette image de taches en fait qui m'est revenue. Après, effectivement, il y a vraiment un mystère au niveau de ce personnage et plus on en apprend. Plus ça conforte dans l'idée que le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que cette histoire de chimie, est-ce qu'on me l'a vraiment racontée, ou est-ce que moi j'invente des trucs par rapport à cette histoire d'incendie, est-ce que c'est pas une simple tache d'encre? Voilà, sur des détails comme ça, du coup, avec les petites informations qu'on peut grainer à droite à gauche, on peut broder quelque chose, mais c'est difficile de savoir, de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Ce qui est vrai, ce qui est faux. Thomas Michard, qui ne connaît rien à l'affaire Lucien Léger, est malgré lui embarqué dans les intrigues sombres de Jacques Sals, qui semble lui survivre encore aujourd'hui. Je suis un sinistre enfant du XXe siècle. C'est ainsi que Jacques Sals, sous le nom de Jacques le Gallois, commence son récit, officiel, du retour des camps. Il n'a que 26 ans, en 1948, traumatisé par la guerre et fâché avec le genre humain, tout avenir, tout espoir lui est alors impossible. Sauf que le martyr ment. Les imposteurs sont nombreux à nous fasciner, comme Franck Abagnale, Jean-Claude Roman ou Hossein Sabzian. Mais ces bâtisseurs de récits ne sont rien sans leurs victimes. Amants, maîtresses, créanciers ou compagnons de route, eux aussi participent à l'imposture, eux aussi sont les acteurs, parfois principaux, de ces comédies souvent grotesques, guidées par l'appel d'une aventure ou d'une histoire singulière. Dans cette seconde partie, nous allons sonder le terreau sur lequel prennent racine ces histoires obscures, ce magnétisme qui actionne la mécanique des événements et nous fait prendre part à ces mises en scène surréalistes. Pour tenter de poser un nouveau regard sur ce très pittoresque Monsieur Sals, je suis parti à la rencontre de ses contemporains. Des compagnons de passage qui ont croisé, selon les jours, un collectionneur d'art désintéressé, un graphologue libidineux ou un psychologue septuagénaire en phase de devenir docteur en philosophie. Parfois, en écoutant ces témoignages, je me suis demandé, parle-t-il vraiment de la même personne ? Tous m'ont répondu avec plaisir et sans résistance. Non pas parce qu'ils avaient des comptes à régler avec Jacques Sals, ni pour faire éclater une vérité nouvelle, mais, il me semble, parce que l'homme leur avait permis de côtoyer le romanesque, l'extraordinaire de façade et un certain sens du spectacle. Jacques Sals, le réel et l'imaginaire. Un documentaire en deux parties de Jérôme Massella. Deuxième partie, le scénariste.
Watts, vous accompagnez Philippe Génada dans ses recherches depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous plaît dans les faits divers ?
Le mystère et les forces à l'œuvre chez les uns, chez les autres. Derrière un fait divers et, bon, et un meurtre, on va dire, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a toujours un mobile, parfois il y en a plusieurs. Donc oui, moi ça me passionne.
Et c'est pas un peu vulgaire de s'intéresser à... Parce que le meurtre est réel.
Oui, oui, c'est possible. Mais en fait, je m'en fous. Et d'ailleurs, je me suis souvent dit que j'avais un peu raté ma vocation parce que je suis devenue journaliste culture, plus particulièrement dans le domaine de l'art, et je me suis dit que j'aurais dû être fait diversière. Ça aurait été parfait pour moi, j'aurais adoré ça. C'est moins chic que de chroniquer les expositions d'art. Mais c'est tellement plus fascinant parfois. J'aime les gens d'abord, je suis curieuse des gens. Et je suis fascinée par tout ce qui peut se jouer chez quelqu'un, a priori quelqu'un qui peut être banal ou sans histoire, jusqu'à aboutir à la mort de quelqu'un.
Watts, est-ce que vous pensez que Jacques Sals est un bon scénariste ?
Un bon scénariste de sa propre vie, certainement. Puisqu'il a d'ailleurs... j'allais dire scénariser sa vie, ou plutôt scénariser ses vies, parce qu'il en a eu plusieurs, et parfois même en même temps.
Et vous n'avez pas simplement l'impression d'avoir pu tomber sur un imposteur ?
Ah ben c'est un imposteur, Jacques Sals, de toute façon, c'est un imposteur. C'est même, j'allais dire, le premier qualificatif qui lui correspond. Par exemple, il se fait passer pour un déporté résistant, il se fait passer pour un décorateur, ce qu'il n'a jamais été...
Mais est-ce que, justement, au vu de ces mensonges, vous pourriez vous dire que c'est un mythomane aussi dans l'affaire Léger ? Du coup, vous pensez qu'il allait à carrure pour être un espion, un tel imposteur ?
Oui, moi, j'ai jamais dit ou pensé ou que Jacques Sals avait tué lui-même le petit Luc Taron. Parce que ça me paraît bien invraisemblable. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait un... Mais c'est une conviction, comme on dit, une intime conviction.
On est naturellement enclin à vouloir comprendre les mystères.
Stéphane Troplin.
Moi, ces histoires de réseau, tout ça, j'ai du mal à y croire. Et en même temps, il y a toujours des éléments qui s'imposent et qui me disent « Mais oui, mais il y a ça. » Et j'essaie de trouver la solution. J'essaie de prendre les éléments, de les imbriquer différemment pour voir si de cette façon-là ou de cette façon-ci, ça marche mieux, on comprend mieux. Pour le moment, j'ai pas réussi, Mais c'est plus fort que moi.
Est-ce que vous êtes déjà demandé si ce qui vous plaisait pas inconsciemment dans cette histoire, c'est que elle était insoluble et donc infinie?
Ouais, c'est possible que l'affaire parfaitement insoluble, ce soit celle-ci. L'archétype d'une affaire criminelle qui pourrait jamais, jamais être résolue, quand bien même tous les témoins seraient présents et existants. C'est possible qu'on soit face à un véritable trou noir criminel. C'est tout à fait envisageable. Par exemple, Sals, je pense que c'est quelqu'un qui... sa démarche scientifique, par exemple, de graphologue, elle s'appuie... enfin, elle ne donne pas lieu à beaucoup de littérature scientifique. Or, c'est étonnant pour quelqu'un qui se présente comme un novateur. Je me suis interrogé sur ses sources de revenus. C'est pas clair. Plusieurs bureaux, plusieurs casquettes aussi, forment des associations, on ne sait pas trop pourquoi. Des cercles de bibliophilie par-ci, une association de défense de mal logés par-là, toutes avec des objets mais sans activité. Mais il ne faut pas gratter grand-chose pour trouver des choses vraiment étonnantes, des faits, des aspects de sa vie qui sont peu compréhensibles. Peu compréhensibles, ça ne veut pas nécessairement dire suspect, mais en tout cas, de quoi vivait-il? Pourquoi avait-il plusieurs domiciles? Pourquoi, dans tous les documents qu'on a trouvés de lui, il signe avec des pseudos, jamais de son nom propre? Il apparaît jamais sous sa véritable identité, en tout cas très rarement. Pourquoi, quand Lucien Léger parle d'un événement, place Maubert, une explosion, une bombe, vraiment, donc quelque chose de violent a priori, pourquoi, sur une photo, on trouve quelqu'un qui lui ressemble beaucoup?
Mais peut-être qu'il n'y a rien.
Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien. C'est possible.
Ce ne serait pas une terrible perte de temps?
Oh non, il n'y a jamais de perte de temps. Oui, ce serait... Peut-être, mais je disais, je pense que les vérités sont souvent décevantes. C'est possible.
Quand vous racontez les faits, j'ai l'impression que vous racontez parfois le scénario d'un film noir que vous auriez vu.
Mais c'est les faits, ça relève totalement du film noir. Alors, un mauvais roman d'espionnage, ou mauvais film d'espionnage peut-être, ou bonne comédie d'espionnage, pourquoi pas, sur certains aspects. Pour la partie espionnage, on ne parle pas du meurtre, bien sûr, mais parce qu'elle est extrêmement riche et propice à dérouler du fil romanesque presque de manière ininterrompue.
Alors... Ouais, c'est mon compte rendu. Parce que là, ça va tout me rappeler, tu vois.
Vas-y.
Alors, au début des années 2000, Jacques Sals fait une donation de 300 œuvres au musée de Châteaudun. Et il écrit pour le musée une lettre sur sa femme, Marie-Madeleine, puisqu'il dit que cette collection, c'est elle qui l'a voulu constituer. On saura par la suite que c'est faux, puisque tous les achats d'œuvres sont annotés par Jacques Sals lui-même. Et donc, il écrit un texte sur sa femme Marie-Madeleine, que je ne vais pas lire entièrement, mais dont je peux donner des extraits, qui s'appelle « Marie-Madeleine Fourgon, une femme inspirée ». Donc, il explique qu'elle est née en 1920 à Montluçon, qu'elle a grandi en Haute-Savoie, qu'elle a été orpheline dès l'âge de 15 ans et que très tôt elle a manifesté, donc là je lis, un vif intérêt pour les différents domaines de l'art, admirant des œuvres aussi différentes dans le temps et dans l'espace que celles des Mayas céramiques ou celles des miniaturistes persans, art safavide. Donc déjà il nous donne quelques mots savants, mais ça c'est du pur Sals dans le style. Alors il explique qu'en 1940 elle s'engage comme volontaire dans les forces françaises terrestres, qu'elle participe à la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son terme, qu'elle entre en Allemagne avec les armées alliées qui avaient débarqué en Normandie. Ayant le don des langues et parfaitement bilingue en anglais et en italien, elle est nommée secrétaire des juges français au tribunal de Nuremberg et a la responsabilité de l'édition française des actes du procès. Par la suite, elle est devenue cadre dans le service du personnel des forces françaises d'occupation à Baden-Baden. Et c'est là donc qu'il explique qu'elle a rencontré son futur époux, lui-même, Jacques Sals, dont il écrit « psychologue et plus tard docteur en philosophie, ancien déporté résistant ». Voilà. Ensuite, il quelques lignes encore sur Marie-Madeleine, où il explique que grâce à sa vaste culture en matière d'art plastique, de civilisation antique, elle sait prévoir les futurs succès d'œuvres rares méconnues à l'époque. Alors ça, c'est pas rien. Qu'elle est diplômée de l'école du Louvre. Alors ça, je n'ai retrouvé aucune trace d'un passage de Marie-Madeleine Fourgon à l'école du Louvre, et encore moins d'un diplôme. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'elle y était. Alors là, la phrase qui suit est assez amusante et paradoxale. Marie-Madeleine, donc, rassemble, malgré ses moyens financiers fort limités, une appréciable collection très éclectique de petits chefs-d'œuvre devenus des années plus tard des témoins clés de la créativité humaine, désormais engagés dans un destin muséal à Nantes, donc le musée d'Aubray, et à Châteaudun. En ce sens, Marie-Madeleine, malgré sa discrétion naturelle et son manque total de vanité, peut être considérée comme le type même de ces « citoyens lambda », entre guillemets, qui s'embrouillent, entretiennent le patrimoine national par l'intermédiaire de leurs legs à des musées méritants. Donc là, on est dans du pur Sals, hein, parce qu'on a trouvé beaucoup d'écrits de Sals, et c'est tout à fait son style. Et donc la dernière phrase, que j'adore... Marie-Madeleine décédée, regrettée de tous ceux qui l'ont connue, à Paris le 5 mai 2000, elle repose au cimetière du Père-Lachaise après une vie consacrée à l'amour du bien et du beau, avec une majuscule à bien et une majuscule à beau. On retrouvera par la suite des textes de Jacques Sals plus politiques, certains fascistes d'ailleurs, où on voit qu'il affectionne cet emploi de la majuscule sur les adjectifs, comme bien et beau par exemple. Et donc ce texte est signé de Jacques Sals le 23 février 2010.
Quelques mois avant de mourir.
Quelques mois avant de mourir.
Souvent, elle a été reprise. C'est le catalogue du centenaire du musée.
C'est vrai que c'était une belle pièce. Moi, je l'ai fait examiner parce que c'est vraiment la pièce sur laquelle j'ai eu un doute, tellement je l'ai trouvée impeccable.
Alors, vous pouvez me décrire l'image qu'on a devant les yeux ?
Alors, c'est ce qu'on appelle des bouteilles effigies. Hein. C'est l'appellation généralement utilisée, donc de forme humaine, anthropomorphe. Là, il s'agit d'un personnage féminin et qui a gardé toute sa polychromie. Sans, il n'y avait pas un éclat sur la pièce, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire.
Et là, on est sur une pièce qui date de quelle période ?
Très certainement, on est sur une pièce qui est plutôt du 9e, 10e.
Et ça doit quand même avoir de la valeur.
Ça a de la valeur, mais peut-être que quand il l'a acheté, ça n'en avait pas beaucoup. Ou peut-être qu'ils s'y sont fait plaisir, ou que Madame Sals s'est fait plaisir en achetant quelques pièces exceptionnelles. Moi, ça, c'est fort possible quand même. Parce qu'il y avait quand même des pièces relativement secondaires sur un peu plus d'une centaine de pièces données à Daubray. Là, vous avez une pièce quand même exceptionnelle. Mais il y avait 3-4 pièces exceptionnelles, je dirais, hein, sur une collection de 110 pièces. On ne s'en sort pas de ce personnage, moi qui va rester un mystère hein, quand même. C'est vrai que j'y pense quand même assez souvent, vous voyez, c'est un des rares collectionneurs auxquels je pense parce que j'ai toujours pensé qu'on avait vécu quelque chose d'assez exceptionnel quoi qu'il en soit. Même si c'est totalement fou, c'était quand même exceptionnel. C'est pas un moment noir non plus pour nous d'aller voir ça, même si